Bienvenue dans le massacre de Piketon.
Police, j'écoute. Police.
C'est mon beau-frère, je crois qu'il est mort.
C'était un crime abominable.
Il y a du sang partout dans la maison.
À part l'attentat d'Orlando, c'était la pire tuerie de l'année 2016 aux États-Unis.
8 victimes, toutes de la même famille.
Et ça allait devenir la plus grande enquête criminelle de l'histoire de l'Ohio.
Le shérif du comté de Pike a tout de suite réclamé l'aide du gouvernement.
Dans la matinée du 22 avril 2016, 8 membres de la famille Rodden ont été sauvagement assassinés. Ils ont tous été exécutés sommairement chez eux. 8 meurtres, 32 blessures par balle, 3 enfants épargnés sur les scènes de crime. Vous écoutez Le Massacre de Piketon, un podcast NRJ et iHeart Podcast. Épisode 1, Papa joue aux zombies. Piketon est une petite bourgade rurale de l'Ohio, à une centaine de kilomètres au sud de Columbus. Elle compte environ 2500 habitants, et à en croire les gens qui vivent là, c'est une communauté très soudée. Tout le monde s'entraide, comme une grande famille.
C'était juste... Enfin, je veux dire, c'était génial de grandir ici. On vivait à la campagne, on faisait du cheval en plein milieu de la route. On prenait le vélo pour aller jouer les uns chez les autres. On se connaissait tous, les gamins du quartier, et on jouait ensemble tout le temps.
Je dormais avec la fenêtre grande ouverte quand j'étais gosse. Ça ne me viendrait même plus à l'idée aujourd'hui. Même pas en rêve. Avant, c'était incroyable ici. Tout le monde prenait soin de tout le monde. Mais maintenant, ça n'a plus rien à voir.
Les Rodden habitaient à Piketon depuis des générations. C'était une famille soudée, dont les membres vivaient tous à quelques kilomètres seulement les uns des autres. Tout le monde en ville les connaissait et les appréciait. C'est ça aussi qui fait que toute cette histoire fait froid dans le dos. Les 8 victimes faisaient toutes partie de la famille Rodden et elles avaient entre 16 et 44 ans. Elles ont toutes été abattues froidement, pendant la même nuit, à leurs 4 domiciles respectifs. La famille Rodden a été traquée et décimée méthodiquement. Les seuls témoins sont les 3 enfants qui ont survécu au drame. Je suis Courtney Armstrong. Depuis l'enquête, avec mon équipe, on n'arrête pas de penser à cette histoire. Certains des coupables présumés vont bientôt passer devant les tribunaux où de nouvelles révélations sont attendues. À première vue, ce 22 avril 2016 était une journée de printemps tout ce qu'il y a de plus normal dans le comté de Pike. Mais en réalité, un drame terrible se jouait dans l'ombre. Voici le témoignage de Barbara, une habitante de Piketon.
J'oublierai jamais cette journée. J'oublierai jamais cette journée. J'étais passée au lycée pour récupérer Brittany parce que je devais l'emmener à un rendez-vous. Et quand je suis arrivée, il y avait une télé allumée et tout le monde était scotché devant. Et moi, j'étais là, mais il se passe quoi ici? Et la secrétaire me répond, « Mon Dieu, il y a eu une fusillade, il y a 6 personnes qui sont mortes. » Et ensuite, elle rajoute, « En plus, on est très inquiets. Le petit Chris Rodden n'est pas venu ce matin. On se dit que peut-être lui aussi. » Tout le monde était sous le choc.
Et le jeune Chris, comme au départ, la police ne le trouvait pas, ils se sont demandé si ça ne pouvait pas être lui le coupable.
À ce moment-là, pour les habitants de Piketon, la confusion est totale. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'une tuerie a eu lieu et que le jeune Chris Rodden Jr., 16 ans, élève au lycée de Piketon, est porté disparu. C'est chez son père, Chris Rodden Sr., que le cauchemar a commencé. Chris Rodden Sr., pour tout le monde, c'est quelqu'un de formidable, qui travaille dur.
C'était un bon père. C'était quelqu'un de bien, comme tous les hommes de cette famille d'ailleurs. Il était toujours prêt à rendre service.
Chris et Dana Rodden avaient été mariés pendant 22 ans, et même s'ils avaient divorcé, ils étaient restés très proches. Tellement proches que, peu de temps avant le drame, Chris avait offert à Dana une maison juste à côté de chez lui, sur Union Hill Road, pour qu'elle puisse continuer de voir leurs enfants régulièrement. Le cousin de Chris Senior s'appelait Gary Rodden. Ils étaient comme des frères et passaient beaucoup de temps l'un chez l'autre. C'est la tante de Chris Junior, Bobby Joe, qui fait la terrible découverte. À exactement 7h49 du matin, elle pousse la porte de chez Chris Rodden pour venir nourrir le chien.
Police, j'écoute.
Oui, il faut vite que vous envoyiez quelqu'un au 40.
Vous pouvez répéter l'adresse, s'il vous plaît. J'ai besoin de connaître l'adresse.
Attendez une seconde. On est rentré dans sa maison. C'est mon beau-frère, je crois qu'il est mort. Il y a du sang partout dans la maison. Mon beau-frère, il est dans la chambre, on dirait qu'il s'est fait tabasser.
Chris Rodden Senior, le patriarche de la famille, était mort. On l'avait tabassé. Son cousin Gary, qui dormait chez lui ce soir-là, avait subi le même sort.
Madame ?
Oui ?
Vous avez son nom ?
Chris Rodden et Gary Rodden.
Chris et Gary Rodden ?
Ils sont morts tous les deux.
Vous pensez qu'ils sont morts tous les deux ?
Ils sont morts tous les deux, je crois. On dirait que quelqu'un les a tabassés.
D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison ?
Je crois pas. La porte était fermée quand je suis arrivée, mais je sais où est la clé, donc je suis rentrée et c'est là que je les ai trouvés tous les deux, ils étaient par terre.
Bobby, je vais vous demander de sortir de la maison et d'attendre dehors.
Je suis devant la porte, là.
Ok, restez où vous êtes et surtout ne laissez personne rentrer, c'est compris ?
Compris.
Ok, la police est en route, ne bougez pas.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
D'après l'équipe dépêchée sur place, Christopher Rodden, 40 ans, est la seule des victimes à être blessée ailleurs qu'à la tête. Son corps portait des traces de blessures par balle à la tête, au torse, aux bras et aux jambes.
Dès qu'on a vu la nouvelle, les premiers flash infos, les premiers emails, les reportages, j'ai compris. On a tous vite compris qu'il s'était passé un truc grave.
Voici James Pilcher, un journaliste d'investigation qui a couvert l'affaire du massacre de Piketon depuis le début.
Peut-être que Chris Rodden Senior était réveillé quand les meurtriers sont entrés. En tout cas, on a quelques indices qui le montrent. En tout, il a pris 9 balles, et il y en a une qui a traversé son avant-bras. Donc, selon moi, il a dû lever les mains pour se protéger. Son cousin Gary, lui, il a reçu 2 coups de feu. Un dans le crâne et un dans le visage. Et l'un des coups de feu était à bout portant. Il y avait une trace de poudre. L'arme était à ça de sa tempe.
Même pour une affaire de meurtre en série, c'est rare de voir les assassins faire preuve d'une telle violence. On a retrouvé des échardes plantées dans le corps de Chris, ce qui semble indiquer qu'il a été traîné sur le parquet à travers la maison. Il avait du sang partout. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un cambriolage ? D'un tueur en série ou d'un fou qui passait là, par hasard ? Et si ce n'est pas la dernière option ? Pourquoi ces deux hommes en particulier ont été pris pour cible ? Pour essayer d'en savoir plus, je suis allée interroger Mike Allen, un avocat basé dans l'Ohio. Est-ce que vous pouvez nous parler des scènes de crime, concrètement ?
D'après le rapport des légistes, on pense que Chris Senior était réveillé au moment des faits. Il s'est retrouvé face à au moins une personne armée d'un pistolet, qui lui a tiré dessus à 9 reprises. En voulant se défendre, il a pris une balle dans l'avant-bras qui lui a fracassé l'os. Toujours d'après ce rapport, il a aussi été frappé à la joue et dans le torse. Et puis, il y a son cousin, Gary, ils sont tous plus ou moins de la même famille. Lui, il s'est fait tirer dessus à 2 reprises. Une fois dans le crâne et une fois au niveau du visage. Apparemment, pour la deuxième blessure, l'assassin a appuyé le canon de son arme contre la tempe de Gary. Les légistes ont retrouvé des traces de poudre autour de la plaie. C'est le genre de détail qui ne laisse pas trop de place au doute, à mon avis. C'est sûr que les meurtres étaient prémédités. Le tueur voulait faire passer un message à quelqu'un.
Cette trace de poudre, j'arrête pas d'y penser. Il a tiré à bout portant. Donc, ils ont dû se regarder droit dans les yeux, non? D'après vous, c'est quelque chose que les enquêteurs devraient prendre en compte?
Je pense que c'est important. Oui. Le tueur devait être tout près, à quelques centimètres seulement. Il devait se tenir juste au-dessus de sa victime. Et pour moi, ça veut dire, surtout avec autant de coups de feu, c'est clair que le tueur voulait faire passer un message. C'est sûr. C'était personnel. C'était une affaire personnelle.
Donc, en rentrant chez Chris Senior, Bobby Joe trouve les cadavres de deux de ses proches tués par balle. Comme la police tarde à venir et qu'elle n'en peut plus d'attendre, elle décide de se rendre chez son neveu Frankie, qui habite juste à côté. Elle a besoin de son aide et il faut qu'elle lui dise ce qui est arrivé à son père et à son oncle. Frankie est le fils aîné de Chris Senior et de Dana. À 20 ans, il est père de deux enfants, Brentley, 3 ans, et le petit Ruger, qui n'a que 6 mois. Comme ses parents, Frankie travaille dur. Il aime la pêche, la chasse et les courses de voiture. Mais par-dessus tout, il aime sa famille et sa fiancée, Anna Gilly, qui a 19 ans. Anna vient d'être élue la plus belle de sa promo au lycée et elle a dit à ses amis qu'elle allait étudier à l'université l'année prochaine. Elle rêve d'entrer en école de commerce et, une fois son diplôme en poche, elle veut ouvrir une crèche.
Frankie et Anna voulaient plein d'enfants. Ils avaient la vie devant eux.
La petite famille habitait aussi sur Union Hill Road, à deux pas de chez Chris Senior. Ils avaient hâte de se marier, et le plus tôt possible. Voici Jeff Winkler, journaliste, qui nous raconte ce qu'il a pu reconstituer des événements de cette nuit-là.
Donc, après avoir prévenu la police, Bobby Joe est allé chez Frankie, c'était juste à côté. Mais celui qui est venu lui ouvrir, c'est son fils de 3 ans, Brentley. Et comme ça a été rapporté dans les journaux, Brentley était couvert de sang. Le pauvre gosse n'avait que 3 ans à l'époque, alors il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Donc, il a dit à sa tante que son papa était en train de jouer aux zombies dans sa chambre. La famille était fan de la série Walking Dead. Pour lui, il était juste avec son père, à l'intérieur, en train de jouer aux zombies. C'est juste déchirant.
Bobby prend son neveu par la main et elle entre dans la maison. Elle y découvre deux victimes de plus. Frankie, tué de 3 balles dans la tête, et sa fiancée, Anna Gilly, qui en a reçu 5, dont une dans l'œil gauche. Ils étaient encore étendus dans leur lit, avec leur bébé de 6 mois dans les bras. Par chance, le nouveau-né, lui, a été épargné. Il est 8h du matin en ce funeste 22 avril et Bobby Joe prend son téléphone pour appeler son frère James. Elle est dévastée par l'horreur de ce qu'elle vient de découvrir. 2 scènes de crime, 4 victimes, 20 blessures par balle et 2 jeunes enfants épargnés. James fonce chez sa sœur Dana pour vérifier qu'elle et les autres enfants sont en sécurité. Dana Rodden est infirmière, et tous ceux qui la connaissent s'accordent à dire que c'est quelqu'un de très serviable et qu'elle a toujours le sourire. Avec Chris Rodden Senior, ils s'étaient rencontrés au lycée, et ça avait été le coup de foudre. Même après leur divorce, 22 ans plus tard, ils sont restés très proches. Ensemble, ils ont eu 3 beaux enfants, Frankie, Anna May et Chris Junior.
C'était un rayon de soleil, toujours le sourire, toujours le mot pour rire. Vraiment, c'était une femme en or. Elle m'avait écrit pour me dire « Je suis grand-mère, j'ai une petite fille » et je lui ai répondu « Félicitations, elle est magnifique » et « Qu'est-ce qu'elle a choisi comme prénom, Anna May ?» Et elle m'a dit « Kylie May » et je lui ai répondu « C'est très joli, c'est la dernière fois que j'ai parlé à Dana. »
Ce mois d'avril 2016 s'annonçait absolument radieux pour Dana, puisque 5 jours avant, sa fille Anna May avait donné naissance à son deuxième enfant. Quelques semaines plus tôt, elles avaient organisé ensemble une grande fête pour célébrer la venue du nouveau-né. Sur les photos de l'événement, tout le monde a le sourire. Mais quand James pousse la porte de la maison de sa sœur Dana, tout ce qu'il trouve, c'est une nouvelle scène d'horreur. Dana et Anna May, sa fille de 19 ans, sont mortes, elles aussi. Comme le reste de la famille, elles ont été exécutées à bout portant. Dana a reçu 3 balles au niveau de la tempe droite et 1 dans le menton. Anna, 2 balles dans la tête, allongée dans son lit avec la petite Kylie May, âgée d'à peine 5 jours et miraculeusement épargnée. Par chance, Sophia, la fille aînée d'Anna, qui avait 2 ans à l'époque, n'était pas à la maison au moment du crime. Quant au troisième fils de Dana, Chris Junior, qui était encore au lycée, personne ne savait où il se trouvait. Souvenez-vous, tout le personnel de l'établissement était mort d'inquiétude et le cherchait partout. La police s'est immédiatement mise à sa recherche et il leur a fallu plusieurs heures pour retrouver sa trace. Mais ils ont fini par le retrouver dans la maison de Dana, non loin de sa sœur, le crâne perforé par 4 balles. Le macabre décompte se poursuit. 7 morts, 31 blessures par balle et 3 enfants retrouvés vivants sur les lieux des meurtres. Toute la ville de Piketon a été secouée par ces crimes abominables. Du jour au lendemain, cette petite bourgade paisible et sans histoire de l'Amérique profonde est devenue le théâtre de l'une des enquêtes les plus complexes jamais menées sur le sol des États-Unis. Quand la tourmente est retombée, 2 familles étaient détruites pour toujours et la petite ville était changée à tout jamais. C'est en lisant l'article de Jeff Winkler, qui résume toute l'histoire, que nous avons commencé à nous intéresser à cette affaire. Nous sommes allés lui poser quelques questions.
Je suis écrivain et journaliste. Je me déplace beaucoup, je couvre des événements qui se passent loin des côtes du pays. Pour l'affaire Roden, je me souviens avoir vu des images en 2016. C'était en direct à la télé. Ils avaient même un hélicoptère qui survolait la zone. On se serait cru dans un de ces vieux romans policiers. Je me suis tout de suite dit qu'il fallait que j'aille voir ce qui se passait là-bas. C'est un crime aussi complexe que sordide parce que toutes les victimes, sauf une, ont été retrouvées le long de la même route à Piketon. Elles ont toutes été tuées la même nuit et de la même façon. Plusieurs balles en pleine tête. Tous ces gens ont été éliminés très méthodiquement.
Revoici Mike Allen, ancien procureur et juge qui exerce maintenant comme avocat.
Cette affaire, ça a fait l'effet d'une bombe dans le coin. Les médias locaux en parlaient sans arrêt. Dès qu'il y avait la moindre info, ils se jetaient dessus. Donc ouais, une sacrée histoire.
Et vous avez une théorie, parce que j'ai parlé à pas mal de gens, et c'est juste des théories, mais pourquoi les enfants ont été épargnés? Le tueur n'était pas prêt à aller jusque-là?
C'est une très bonne question. Je pense que ça veut dire, enfin, peut-être, que le tueur voulait montrer qu'il lui restait un peu d'humanité. Qu'il refusait de tuer des enfants. C'est une maigre consolation, je suis d'accord. J'imagine qu'il avait un genre de code d'honneur ou je ne sais pas quoi, qu'il a décidé d'épargner les enfants. Malgré la violence de ses meurtres, il n'a pas pu se résoudre à s'en prendre à des gamins, surtout aussi jeunes.
Oui, une enfant de 5 jours.
Oui, je n'ose même pas imaginer.
Près de 7 heures après la découverte des premiers corps, à 13h26 ce fameux 22 avril, la petite ville sans histoire de Piketon allait être secouée une nouvelle fois par une dernière découverte macabre.
Police, je peux vous aider?
Oui, il faut vite envoyer quelqu'un au 799 Bluff Road.
Ok.
C'est toute cette histoire à la télé, je viens de trouver mon cousin, il s'est pris une balle.
Ok. Est-ce qu'il est vivant?
Non. Non.
Ok.
Je suis au bord de la route. Je les attends.
Quel est votre nom, monsieur?
Donald Stone.
Donald Stone?
Donald Stone. Oui, c'est mon cousin.
Et son nom à lui?
Kenneth Roden.
Kenneth Roden?
Oui.
Très bien. Vous êtes toujours dans la maison?
Non, je suis dehors. J'étais passé chez lui pour vérifier s'il allait bien, et j'arrive et je vois qu'il s'est pris une balle.
D'accord, monsieur. On vous envoie quelqu'un. Faites attention à vous, ok?
À quelques kilomètres de là, toujours sur Union Hill Road, Kenneth Roden, le frère de Chris Senior, gisait mort chez lui, abattu d'une balle dans l'œil droit. C'est son cousin Donald Stone qui a découvert le corps. Après avoir appris à la télévision ce qui était arrivé aux autres membres de la famille Roden, et n'ayant pas eu de nouvelles de Kenneth ce jour-là, il s'est inquiété et a fini par se rendre chez lui. C'est là qu'il l'a retrouvé, baignant dans son sang, comme les autres. Écoutons l'avis de Jeff Winkler.
Le premier jour, c'était coup de théâtre sur coup de théâtre. Tout le temps des nouveaux détails, des nouvelles infos. Il y avait de plus en plus de policiers qui arrivaient et de plus en plus de morts. Ça ne s'arrêtait pas. Et je crois que le pire moment, le moment où vraiment on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été vers 13h30. 7 heures après les premiers corps, on retrouve un autre corps, celui de Kenneth. Et lui aussi, il a été tué de la même façon, à bout portant. Sauf que lui, en plus, son corps était couvert de billets de banque et... Enfin, c'est le genre de truc qui s'invente pas.
Quand les noms des 8 victimes ont été rendus publics, un vent de panique a soufflé sur Piketon.
Quelqu'un est rentré chez eux pendant la nuit et les a tous tués, un par un. Et personne ne sait qui a fait ça ni pourquoi. C'est ça qui fait peur aussi.
On entendait beaucoup de rumeurs. Tout le monde ne parlait que de ça, que ce soit en ligne, dans les cafés ou même entre flics. Tout le monde se demandait qui avait pu faire ça et pourquoi.
2 jours après les meurtres, les autorités ont fait une nouvelle annonce.
Je donne la parole au procureur général DeWine.
Merci beaucoup, shérif.
Vous allez à présent entendre Mike DeWine, le procureur général de l'Ohio, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu le 24 avril 2016.
Je pense que nous pouvons à présent dévoiler cette information au public. Nous avons retrouvé de la marijuana sur 3 des scènes de crime.
Voici Jeff Shane, avec qui j'ai enquêté sur cette affaire. Il a pris contact avec Jody Barr, un journaliste d'investigation qui, au moment où les meurtres ont eu lieu, travaillait du côté de Cincinnati.
Il y a tout un tas de théories différentes sur ce qui a bien pu se passer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de théories.
Jody suit de près cette affaire, et ce depuis des années.
On a entendu beaucoup de témoignages. C'est pas facile de tout recouper et de démêler le vrai du faux. Personne n'a encore réussi à trouver l'identité de l'assassin ni à comprendre ses mobiles. Pourquoi tuer ces 8 personnes? Pourquoi s'en prendre à cette famille-là? La théorie qui a fait le plus parler d'elle, c'est celle du cartel de drogue. C'est parce que quelques heures seulement après les meurtres, le procureur général de Wine et le shérif de Piketon, Charlie Reeder, ils ont donné une conférence de presse où ils expliquaient qu'ils avaient retrouvé des plants de cannabis dans 3 des 4 scènes de crime.
Une autre théorie, c'est que les meurtres pourraient être liés à une querelle avec une autre famille de la région. Jody Barr nous en dit plus sur cette piste.
D'après nos sources, quelques jours avant les événements, Chris Senior s'était violemment disputé avec des membres d'une autre famille implantée dans la région. Il y avait eu des échanges de messages sur les réseaux sociaux notamment, qui auraient pu pointer un mobile possible. C'était l'une des théories quand je suis arrivé sur les lieux. Mais en parlant avec les proches des Roden, leurs voisins, des gens qui les connaissent, j'ai vite compris un truc. Tout le monde avait l'air de savoir ou bien d'avoir vraiment une bonne idée de ce qui s'était passé. Mais personne ne voulait parler. Ils étaient tous terrorisés parce que le tueur était toujours dans la nature et qu'il n'y avait même pas de vrai suspect. Donc pour les gens du coin, c'était motus et bouche cousue. Et on regarde bien derrière soi en rentrant à la maison. Les gens avaient peur. Ils avaient peur d'être les prochains sur la liste.
Revoici Jeff Winkler.
La majorité des gens pensaient qu'il y avait un lien avec le trafic de drogue, vu que les Roden faisaient pousser de la marijuana. Est-ce que c'était un coup d'une famille rivale? Est-ce qu'il y a un rapport entre les meurtres et les embrouilles entre les Roden et d'autres familles de la région? Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé, mais tout le monde avait sa petite théorie.
Tous les habitants de Piketon vivaient dans la peur. Et les enquêteurs travaillaient d'arrache-pied pour retrouver le ou les coupables et les amener devant la justice.
Mike DeWine. Bon, on n'est pas exactement amis, mais je le connais bien. C'est quelqu'un de très professionnel. C'était un très bon procureur. C'est ça qui lui a permis de rentrer en politique ensuite. Donc, il a géré cette affaire comme un pro. Et ils avaient bien besoin de son aide. Ça, je peux vous le dire. C'est pas le shérif et ses hommes qui auraient pu gérer cette affaire. C'est pas pour leur jeter la pierre, hein. Mais ils ont juste pas les ressources pour s'occuper d'une affaire comme ça.
Dans les conférences de presse, le shérif Reeder disait aux gens de prendre leurs précautions. Il leur conseillait d'avoir des armes à feu sous la main pour se protéger, au cas où le tueur reviendrait.
Dans une petite ville comme ça, et vu l'horreur des meurtres, je ne peux pas dire que c'était un mauvais conseil. Bien sûr, il fallait que ce soit fait dans les règles, avec un permis de port d'armes. Mais les gens ne comprenaient pas ce qui se passait là-bas. Je veux dire, on entendait des tas de théories. Et puis, c'est la campagne ici. Moi-même, si j'avais vécu là-bas et que j'avais eu un permis de port d'armes en règle, honnêtement, j'aurais pas hésité.
Pendant 2 ans, personne n'a été arrêté. La pire tuerie de l'histoire de l'Ohio. Tellement de victimes, tellement de coups de feu. Comment est-ce possible qu'on n'ait pas résolu l'affaire ? Il y a tellement de questions laissées sans réponse. Qui a bien pu faire ça ? Un tueur solitaire ou bien, au contraire, un groupe organisé ? Comment est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir sans laisser de traces ? Chacune des 4 scènes de crime a ses spécificités et ses mystères. La maison de Chris, où il a été retrouvé mort avec Gary, a dû être le théâtre d'un affrontement violent. Chez Anna et Frankie, les enfants ont été épargnés. Et enfin, il y a Kenneth, dont le corps a été retrouvé couvert de billets de banque. Toutes les victimes ont été abattues à bout portant. Les Roden ont donc vu là où les personnes qui les ont tuées avant de mourir. Comment se fait-il que personne n'ait rien entendu ? Et qui seront les prochains ? Et puis, 2 ans plus tard, le 13 novembre 2018...
Bonjour à tous.
Il y a enfin eu du nouveau dans cette affaire.
Nous avions promis qu'un jour, des suspects seraient appréhendés dans l'affaire du massacre de Piketon.
Vous écoutez un enregistrement d'une conférence de presse donnée par Mike DeWine, à l'époque procureur général de l'Ohio.
Hier, le jury d'accusation a mis en examen 4 individus pour meurtre avec préméditation. Ils encourent la peine de mort s'ils sont reconnus coupables de ces meurtres brutaux, cruels, perpétrés de sang-froid.
Avec ces 4 coupables présumés enfin derrière les barreaux, le cauchemar semblait toucher à sa fin pour les habitants de Piketon. Mais en réalité, le mystère ne fait que commencer. Qui sont les 4 membres de cette famille accusés de meurtre ? C'était le premier épisode du Massacre de Piketon, un podcast Énergie et iHeart Podcast. Mise en son par Nicolas Mollet, produit avec l'Acmé Productions. Avec les voix de Blanche Leleu, Sylvain Sounier, Sophie Fogarassi, Quentin Gouverneur, Cécilia Anseux, Marc Segala, et Oja Lorca.